Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Bonjour à tous, je suis Alice Haché, je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-upers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Raphaëlle Archambault, la directrice développement durable de L'Occitane, le célèbre groupe de cosmétiques, notamment connu pour sa marque L'Occitane en Provence. D'ailleurs, je crois bien que c'est via cette marque en fait, qu'est né le groupe, non ?
Oui, tout, tout à fait.
C'est ça ?
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est un groupe de 8 marques, qu'on aime bien dire un peu multilocales, parce qu'en fait, elles sont toutes ancrées dans des territoires un peu spécifiques et à travailler avec des communautés locales. Et effectivement, celle que vous devez le plus connaître, c'est L'Occitane en Provence.
C'est quoi les autres ? Est-ce que tu as des noms ?
Alors les autres, il y a Elemis qui est une marque anglaise, Lamlife qui est une marque américaine, Herborian qui est mi-coréen, mi-français. Sol de Janeiro qui vient de rejoindre le groupe, du coup qui est très ancré dans le territoire brésilien. L'Occitane au Brésil aussi, qui est ancré au Brésil, qui travaille avec des producteurs brésiliens. Donc tout ce panel de belles marques.
Et donc j'imagine que toutes les valeurs du groupe sont quand même ancrées dans ces marques-là, non ?
Tout à fait, ouais, tout à fait.
D'accord.
C'est pour ça qu'on a ce côté multilocal qu'on aime bien utiliser pour ce côté vraiment proche un peu des gens, de la nature un peu locale. Et on a vraiment des priorités qui sont un peu communes pour tout le groupe, sur lequel moi je travaille, parce que je travaille du coup sur le périmètre du groupe.
Super, ça va être hyper intéressant. Donc c'est quand même un secteur qui est très challengé, comme en vrai tous les secteurs aujourd'hui, hein, soyons honnêtes. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, ça reste des produits de consommation. On a eu le rapport du GIEC il y a quelques jours. Bon, quand ça passera, ce sera quelques mois, mais bon, on peut le rappeler. On parle de mieux consommer, sobriété, durabilité, etc. Comment aujourd'hui, quand on est une marque de cosmétiques, on fait pour s'ancrer dans l'air du temps et dans les besoins et dans les recommandations aussi environnementales et sociales, hein, bien sûr, il y a les deux.
Tout à fait. Je pense qu'en fait, les entreprises, elles ont un énorme rôle à jouer, mais énorme. Et je pense qu'en fait, elles doivent réinventer la consommation de demain, tout simplement. Et pour ça, je crois vraiment au fait qu'il faut prendre le temps d'inventer en fait, des choses, des services, des manières de consommer qui sont nouvelles pour pouvoir convaincre les gens, en fait, de changer aussi. Je pense que c'est le rôle des entreprises. On dit toujours, c'est aux consommateurs de changer. Non, c'est aux entreprises de proposer les solutions et vraiment de proposer des solutions qui permettent de changer dans la durée. Par contre, il y a cette urgence. Donc, il faut prendre le temps, mais en même temps, il faut aller vite pour proposer un peu ces nouveaux modes de consommation.
Et donc, on le sait, bientôt, le plastique à usage unique va être arrêté. Vous étiez un des pionniers, je crois bien, avoir tenté le vrac en boutique, justement, pour les packagings, pour limiter le packaging, même au-delà du plastique totalement. Et est-ce que ça aboutit d'ailleurs ce test ou est-ce que...
Ouais, tout à fait. C'est un sujet déjà qui est pour la marque depuis très longtemps. Il y avait des concepts de consignes dans les années 90 pour l'Occitane en Provence.
Mais est-ce que à l'époque ça peut être intéressant de savoir est-ce que c'était pas plutôt à la fois du bon sens et un peu économique aussi ?
Tout. Mais de toute façon, il faut que ce soit les deux en fait. C'est comme ça qu'on y arrivera. C'est qu'il faut qu'il y ait ce côté économique et ce côté impact positif.
L'écologie, c'est souvent de l'économie. Le packaging, ça a un coût.
Et les fontaines, là, du coup, qu'on a testé il y a 3 ans maintenant, donc c'est vrai qu'on était un peu dans les premiers, on s'est inspiré de l'alimentaire, et on s'est dit, il faut qu'on teste une nouvelle manière, justement, de consommer des gels douches, des shampoings, on a des produits comme ça qui s'utilisent dans la douche. Et du coup, on a testé d'abord dans 3 boutiques, pour vraiment travailler avec le personnel en boutique sur la manière de conseiller, d'être sûr que du coup, les gens reviennent et changent vraiment leur consommation dans la durée. Et en fait, ça a bien marché. Et là, maintenant, on est quasiment, je pense qu'en juin, on sera à 100 boutiques dans le monde.
C'est génial. Dans le monde. Les premières, c'était en France ?
C'était en Europe, Italie, Espagne et Allemagne de mémoire.
Et les consommateurs, est-ce que tu as vu au début, c'était un petit peu frileux ? Est-ce qu'ils étaient emballés dès le début ?
C'était pas forcément frileux, ils étaient intéressés. Après, il fallait peaufiner pas mal de choses pour que la machine soit pratique, que soit rapide, que soit hygiénique. Donc vraiment plein de petites contraintes qu'il fallait fixer. Et pareil, en boutique, elles ont énormément de choses à faire. Elles gèrent une mini-entreprise, en fait. Donc, leur rajouter ce geste-là, bah, fallait les accompagner et que ce soit simple pour elles.
Et le contenant,
mais par contre, l'appétence,
coup...
elle était là, hein, des consos et des clients. Ouais. Ouais, complètement.
Et le contenant, du coup, c'était un...
C'est en alu, donc en gros, éternel. Hein, le flacon, il va durer toujours et on peut le recharger un peu à l'infini.
Super. Et donc là, on parle un peu du packaging, le contenu, du coup, parce qu'on parle aussi d'éco-conception des produits, de naturalité.
Ouais.
J'imagine que c'est quand même un des engagements du groupe assez, assez fort.
Les formules, du coup
le contenu, hein, ouais. C'est ça, oui, bah, du coup, le produit, oui, c'est ça.
Bah, nous, il y a un des gros, gros sujets et qui est lié, du coup, aux formules, qui est très lié aux formules, c'est le sujet de la biodiversité. Donc, on parle énormément du climat, qui est une énorme priorité. Et nous, on a des engagements, des objectifs de réduction et tout. Et en fait, les deux sont complètement liés. Et la biodiversité, on n'en a pas parlé, en fait, pendant beaucoup, beaucoup d'années au niveau international. Là, enfin, ça devient un gros sujet et c'est important parce qu'on vit un collapse, un effondrement de la biodiversité quand même. Et nous, on s'est rendu compte en 2017, on a fait un diagnostic en fait biodiversité de toute notre activité et on s'est rendu compte que l'impact qu'on pouvait avoir, c'est via les matières premières qu'on met dans nos formules. Donc en fait, en fonction de comment on cultive les plantes, comment sont cultivées les plantes qu'on va mettre dans les ingrédients cosmétiques derrière, ça peut soit avoir un impact négatif pour la biodiversité, par exemple, monoculture, pesticides, déforestation qui est liée à ça.
Puis pesticides derrière sur la peau, je pense que ça ne va pas être génialissime.
En plus, voilà, on est bien d'accord. Et par contre, ça peut avoir un impact positif si on utilise des méthodes agricoles comme agroécologie, agriculture régénératrice, etc. Il y a plein de méthodes en ce moment.
C'est un sujet au cœur de l'actualité, ça, justement.
C'est
passionnant. Et je me demande d'ailleurs, comment s'est faite cette prise de conscience? Parce que nous, on en a, je pense qu'on le sait depuis un petit moment, mais là, soudainement, cet engouement, est-ce qu'il y a eu des prises de parole justement des marques ou des prises de parole des politiques à ce sujet-là? Tu sais pas trop.
Là, c'est beaucoup le rôle des ONG. Hein. Ouais. En ce moment, nous, on a beaucoup travaillé avec l'UICN, le comité français. C'est vraiment, les ONG font un boulot incroyable en fait sur ça. Et puis, je pense qu'il y a des entreprises qui se bougent beaucoup. Nous, c'est vrai que c'est un sujet qui est là depuis toujours. On travaille avec des producteurs locaux et justement, on travaille avec eux. Sur le terrain, on a des ingénieurs agronomes qui vont sur le terrain et qui vont faire des diagnostics biodiversité. On les a aidés à créer un collectif là, d'agroécologie équitable pour qu'ils puissent tester en fait, des méthodes, donc des couverts végétaux, comment relaisser pousser un peu la nature sur les parcelles. Et c'est passionnant parce qu'en fait, l'agriculture, c'est au cœur des solutions pour le climat, parce que ça permet de séquestrer du carbone dans le sol.
C'est un des outils de décarbonation.
Exactement.
Sans chercher de nouvelles innovations,
etc.,
et de plancher, on l'a.
Exactement.
On en parlait avec Sabine Roux-de-Bézieux dans la Fondation de la Mer, les océans.
Pareil.
Voilà, c'est ça.
Tout à fait.
C'est une solution.
C'est une solution. Et la terre, c'est une solution que pour l'instant, on sous-exploite. Donc, il faut qu'on refasse vivre la terre, qu'elle puisse reséquestrer mieux du carbone. Et pareil pour la biodiversité. Pareil, c'est un sujet pour la juste répartition des richesses. Je pense que les agriculteurs et agricultrices qui, demain, vont séquestrer du carbone et créer de la biodiversité sur leur parcelle, il faut qu'ils soient payés pour ça.
En fait, il faut arrêter aussi de sous-payer les acteurs qui mettent du sens aussi dans leur métier.
Complètement.
Je pense qu'au contraire, il faut les valoriser.
Complètement.
Attends, je trouve qu'on marche la tête à l'envers, les pieds. Bref, t'as compris la métaphore.
Mais
quoi.
Il faut qu'ils aient cette rémunération et c'est pour ça que les entreprises, je pense qu'elles ont un rôle. Il faut qu'il y ait des subventions, des réglementations, mais en fait, les entreprises, elles travaillent avec ces gens-là. Donc, on peut les payer justement à la juste valeur.
Ça.
Et c'est ce qu'on fait, ouais, tout à fait.
C'est génial.
C'est ce qu'on fait, du coup, avec des producteurs locaux en Provence, au Burkina Faso. Là, on est en train, petit à petit, même de certifier Fair for Life, donc équitable, des producteurs en France. Parce que souvent, c'est un sujet qui est très, ce qu'on appelait souvent Nord-Sud, et qu'on a fait au Burkina Faso pour le beurre de karité il y a longtemps. Mais là, du coup, on le fait aussi avec les producteurs en France. Parce que c'est pareil, en fait. Ils ont aussi des problématiques. Il faut qu'ils vivent de leur métier et qu'ils puissent réinjecter, en fait, du coup, cette prime, entre guillemets, dans l'écologie, vu qu'ils sont tellement au cœur de tous ces sujets-là, en fait, il faut les aider, donc il faut avoir des partenariats forts avec eux.
Surtout qu'on parle beaucoup de relocaliser au maximum, parce qu'il y a quand même les transports. Bon, après, j'imagine que tout ce que vous faites au Burkina, ce n'est pas forcément pour la France, mais ce sera plutôt pour une autre marque, c'est ça?
Alors, Burkina, non, c'est pour l'Occitane en Provence, c'est pour le beurre de karité, tout à fait. Et là-bas, on travaille depuis les années 80, du coup, avec des coopératives de femmes, donc en direct, c'est-à-dire qu'on ne leur achète pas. Déjà pas par intermédiaire, c'est en direct. Et en plus, c'est pas que les noix, mais le beurre.
Génial.
Parce que la création de valeur, en fait, là où elle gagne un peu plus, c'est en fait la transformation du beurre.
C'est génial.
Donc, on travaille avec elle. On a des équipes, du coup, qui sont là-bas, sur place, du coup, qui travaillent, du coup, avec elle pour ça.
Et pour l'import, alors, parce qu'il y a de la logistique, j'imagine, des transports, vous faites comment pour les transports? Parce que là, on l'a vu, c'est encore un des autres...
Complètement, ça, c'est un des autres sujets. Ouais. Alors, transport, là, pour le Burkina, c'est maritime. La chance qu'on a, c'est que le Burkina, quand on a calculé l'empreinte carbone, en fait, de la production du beurre de karité, mais hors transport, donc ça, c'est un autre sujet qu'il faut qu'on aborde, il est, entre guillemets, neutre. Parce que grâce, du coup, au karité, on arrive à séquestrer, on a réduit, en fait, les émissions aussi de la production du beurre. Donc ça, c'est un pan qui est intéressant. Mais par contre, il y a tout le transport. Et là, on a des objectifs. Alors là, on est en train de travailler. On a testé déjà plein de choses du transport entre l'Europe et l'Asie, qui est train, en fait, où on met du coup des camions sur, du coup, sur les trains. Et là, on est en train, on attend en fait la validation de nos objectifs science-based target, du coup, pour le climat, où en fait, c'est des objectifs qu'on soumet à une initiative externe pour dire est-ce que nos objectifs de réduction sont assez ambitieux? Et est-ce qu'ils sont en ligne avec les accords de Paris? Et est-ce qu'ils sont validés par la science? Et je trouve que c'est une hyper... Enfin, ça fait avancer, en fait, les entreprises de faire ça, parce que pendant très longtemps, déjà, les entreprises qui veulent le faire, il y a celles qui veulent le faire, mais après, elles peuvent définir des objectifs un peu comme ça, en se disant, bon, bah, je suis capable de faire ça, donc je définis ça. Là, au moins, c'est une initiative qui valide, en fait, que les objectifs sont assez ambitieux.
Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que finalement, toutes les industries sont codépendantes face au climat. Oui. Vous êtes dépendant du transport. Donc, si demain, il y a un cargo zéro carbone, bah, vous allez le prendre. Enfin, j'imagine que celles qui peuvent investir. Alors, encore une fois, toutes les marques ne peuvent, si c'est plus cher.
Complètement.
Bref, on en revient toujours même, il y a quand même un problème économique. Mais il manque de l'innovation, en fait, dans tous les secteurs.
Dans tous les secteurs.
Et est-ce que vous pouvez justement investir dans l'innovation et la R&D?
Complètement. Alors, et surtout que par rapport à ce sujet de travail avec d'autres, en fait, nous, quand on regarde notre bilan carbone, la plus grosse partie de nos émissions, c'est ce qu'on appelle le scope 3. Et du coup,
comme d'habitude, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il était passé sous silence pendant si longtemps. Scope 1, scope 2, on est neutre. Ah bah oui, mais scope 3,
c'est pour ça que moi, je suis pas très à l'aise avec ce genre de revendication. Non,
mais d'ailleurs, neutralité carbone, l'ADEME a dit, on arrête d'en parler, c'est du greenwashing.
Et surtout, quand on prend pas en compte le scope 3, qui est le gros, donc nous, c'est chez, avec les fournisseurs, aussi l'utilisation des produits, le transport. Et du coup, c'est pour ça que la responsabilité des entreprises, c'est de travailler avec tous ces acteurs-là pour réduire, en fait, l'empreinte carbone. Et l'innovation, pour moi, elle est au cœur de tout ça, que ce soit pour les transports, mais aussi pour les produits. Comment on réduit drastiquement, parce qu'il faut décarboner complètement tout ça.
C'est l'enjeu. Maintenant, c'est donc, de la décarbonation. Alors, la compensation, on n'en parle plus du tout. D'ailleurs, je suis assez contente parce que je trouve qu'on ne voit plus trop le mot « je compense », machin, ça va, c'est parti. Mais là, c'est de la décarbonation, donc ça va être un... Et juste, pour toi, c'est quoi l'avenir du secteur de la cosmétique? Parce que nous, consommateurs, on se dit « il faut qu'on revienne à l'essentiel ». Donc, ça veut dire que les marques doivent proposer des basiques, il faut arrêter de proposer 36 milliards de produits. Mais on n'a pas tous les mêmes pots. Enfin, c'est quand même super compliqué. Est-ce qu'il y aura un produit qui sera multi-pot? Ça ne doit pas être du tout le terme, mais tu vois ce que je veux dire?
Peut-être, j'espère. En fait, alors on pourrait même se demander, est-ce que la cosmétique a un futur? Est-ce qu'il faut continuer à faire des produits cosmétiques, en fait, dans le monde un peu de demain? Moi, je pense que oui, parce que, alors, si on devait juste répondre aux besoins basiques de la pyramide de Maslow, de se nourrir, se loger, etc., bah non, mais en fait, heureusement, on peut avoir des choses aussi qui nous apportent du bien-être pour l'esprit, pour le corps.
Et puis l'hygiène, quand même.
Mais bon, on pourrait se dire, on peut revenir à juste faire que, dans ces cas-là, des savons, mais je crois quand même à cette richesse de pouvoir avoir aussi ce bien-être en plus, parce que pour moi, ça sert aussi quand même justement la santé mentale, etc. Et je pense juste qu'il faut justement innover pour proposer une cosmétique qui est bas carbone, qui a un impact positif sur la biodiversité. Donc nous, on cherche à être, c'est des grands mots, mais ce qu'on appelle nature positif, donc essayer de recréer de la biodiversité dans notre chaîne d'approvisionnement, d'être bas carbone, d'être équitable. Moi, j'y crois profondément. Et du coup, il faut qu'on travaille sur tous ces pans-là pour petit à petit créer des business models qui sont régénérateurs, en fait, et qui créent cet impact positif sur l'ensemble. Et je pense que c'est réellement possible. Et nous, on arrive à tester des pans. Maintenant, il faut qu'on mette tout ensemble et qu'on arrive à réinventer cette cosmétique de demain, quoi.
Non, mais j'aime bien le positif. Et je pense que c'est... T'as raison d'avoir ce regard-là. mais de le porter. Je suis entièrement d'accord avec toi. Faut pas non plus qu'on... Je pense pas qu'il faille déconsommer, mais consommer mieux. Donc, en effet, peut-être aussi me sensibiliser. Votre rôle, c'est de sensibiliser les clients, comment mieux utiliser les produits, ne pas gaspiller.
Complètement.
Comment les conserver. Peut-être il y a plus de pédagogie à avoir.
Complètement. On a du recyclage, là, dans quasiment tout. Là, on a quasiment, je pense qu'on a 60 et quelques pourcents de nos boutiques dans le monde qui ont du recyclage en boutique. Et les gens le font. Alors, on essaye petit à petit. Mmh. On n'arrive pas à récupérer 100% de nos produits. Moi, ce serait un peu mon rêve. Donc ça, il faut qu'on travaille avec eux.
Le format pas consigne, mais dotation.
Pourquoi pas?
Peut-être
pourquoi
les choses pas. À tester.
On teste plein de choses. Les pays, ils testent plein de choses. Et je pense qu'il y a des... Encore une fois, il ne faut pas remettre la responsabilité sur eux. C'est nous qui leur vendons choses. Mais par contre, réfléchir avec eux sur comment on peut faire en sorte que petit à petit, tout soit recyclé de tout ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des pays où il y a déjà plein de recyclage public, mais ça fait partie justement de la discussion, d'ouvrir la discussion avec eux en boutique.
Et alors, c'est quoi tes prochains challenges avec l'Occitane? T'en as plein, j'imagine, mais peut-être le plus gros ou celui qui te tient le plus à cœur?
Bah, nous, en ce moment, je trouve qu'il y a un sujet qui est hyper intéressant, mais ce n'est pas un challenge, c'est le monde de la finance et de la comptabilité. Parce qu'en fait, je pense que c'est en injectant ces sujets dans la comptabilité des entreprises qu'on va vraiment changer dans le fond du sujet.
Parce que la base de l'entreprise, c'est quand même de faire du business.
Eh bah, bien, quand même. Donc, en fait, là, on parle de comptabilité carbone, comptabilité environnementale. Et ça, j'y crois profondément. Et nous, nos équipes finances, elles font un travail qui est incroyable. Ils sont hyper motivés. Là, on teste en ce moment un prix interne du carbone. De se dire comment, donc comment on le monétarise.
Sans KPI externe, c'est vous-même qui vous auto-challengez.
Bah, on a essayé de trouver un peu comment donner un espèce de prix. Et puis, on a travaillé avec des gens, on s'est renseigné. Et puis, c'est juste pour voir est-ce que ça nous permet de faire des meilleurs choix. Ça fait très longtemps, moi, je travaille depuis 14 ans dans l'entreprise. On a des notes éco-conception pour tous les lancements qu'on fait. Ça nous permet de faire des choix. On a des analyses cycle de vie pour les produits. Ça nous permet de faire des choix. Là, est-ce que ça nous permettra de faire des nouveaux choix? En se disant, on doit choisir entre deux fournisseurs, bah, ils nous proposent deux solutions. En fonction du coût de l'impact carbone et du prix que ça a, est-ce que finalement c'est si intéressant que ça? Pour nous, mais aussi du coup pour la planète, parce qu'on sait que ce sera responsable de ces émissions.
Ce serait bien hyper intéressant. Que les entreprises écoutent tout ce podcast. Non, mais parce que c'est une super idée. Parce que tu as entièrement raison, finalement, quand même, on est quand même dans une société capitaliste. Hein. Tout est drivé par le business et on a beau se dire qu'il faut aller vers un business plus vert. Tant que la finance n'a pas bougé elle-même, d'ailleurs, on attend beaucoup de réglementations de l'État et des réglementations tombent parce que justement, elles tombent là-dessus.
Complètement.
Et c'est comme ça qu'elles se bougent, les entreprises. Quand on se dit, ah bah oui, bah là, ça, je vais être taxé là-dessus, là, je vais devoir faire ça parce
c'est sûr.
Sinon, je vais perdre du chiffre d'affaires. Bon, bah forcément, on le fait. Donc, tu as entièrement raison. Est-ce que tu aurais des choses à ajouter qu'on n'aurait pas vues ensemble? Mais j'ai adoré en tout cas échanger avec toi et tu m'as. C'est pas pour faire de la pub, mais de toute façon, mes abonnés, n'importe quoi, mes auditeurs le savent, je suis assez cash, j'aimais déjà beaucoup cette marque. Donc, pourtant, je suis pas très marque. Hein. Enfin, je suis pas très. Je suis plus assez minimaliste.
Mais j'ai toujours, depuis
petite, ma maman m'a acheté les crèmes L'Occitane, etc. Ouais. Donc, bon, voilà.
Non, qu'est-ce que je peux ajouter? Non, je pense qu'il faut qu'on soit plus. Nous, on a une taille qui fait qu'on n'est pas énorme. On commence à quand même, en tout cas, avoir une belle présence, mais on cherche de la collaboration. En fait, on a besoin de travailler avec des gens, avec d'autres entreprises, avec des ONG. Donc, on cherche tout le temps de la collaboration. Ces sujets-là, ce n'est pas des sujets compétitifs, en fait. Et ça ne doit pas l'être.
Le climat, c'est on est tous dans le même
bateau. Et les solutions, il faut qu'on les trouve. Nous, l'impact carbone, il est aussi via l'utilisation de nos produits parce qu'on vend des gels douches et que l'eau chaude, il faut bien de l'énergie pour ça. En fait, je pense qu'il faut tous qu'on comprenne un peu l'impact de ce qu'on fait au quotidien. Ça ne veut pas dire que tout le monde est capable de tout changer drastiquement, mais avoir conscience, puis petit à petit, faire changer les choses et puis choisir des produits qui sont plutôt responsables, voter aussi.
Oui, c'est
ça. une bonne manière d'agir.
Je crois que ce sera passé l'élection, mais pour ceux qui n'auront pas voté la prochaine fois quand même, hein, vous essayez. Non, et mais peut-être aussi, tu vois, là j'y pense, peut-être rendre ça un peu plus ludique aussi, un peu plus sympa.
Ouais.
Alors, peut-être gamifié pour certains, mais c'est vrai que tu vas te dire, tiens, j'ai fait ça, oh, j'ai gagné X points carbone, ou je sais pas, là je vais peut-être lancer une start-up, tu vois, dans ce podcast.
Bonne idée, avec plaisir.
Mais tu sais, et tu vois, je pense qu'il faut rendre ça cool et sympa, ces sujets-là, et pas simplement anxiogène.
Oui.
Parce que là, de toute façon, on n'a plus le choix. Ouais. Donc maintenant, il faut qu'on embarque tout le monde. Ouais. Et il y en a qui... J'ai appris, donc c'est le podcast qui est sorti là sur Ipsos, que 50% des Américains étaient climato-sceptiques.
Ouais, voilà.
Désolée, c'est pour les anxiétés finales. Mais justement, ceux-là, comment tu les embarques s'ils n'y croient pas? Donc, il va falloir trouver des solutions.
Nous, ce qui est super, là, c'est qu'on a des... Là, dans mon équipe, maintenant, on a des relais dans tous les pays, dans toutes les régions. Et typiquement, nous, les équipes aux États-Unis, elles sont passionnées. Elles ont envie de faire bouger les choses.
Vois, donc... Il faut qu'en local, ils évangélisent les sujets qu'on a besoin d'eux.
C'est ça.
Bon, écoute, on va s'arrêter là parce que je sais que tu repars. Merci beaucoup, c'était passionnant.
Merci de m'avoir invité.
J'étais ravie. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.